Mardi, le ministre des Finances de la première puissance économique mondiale a regardé les marchés dans les yeux et il leur a dit « Vous pouvez parier contre moi, si vous voulez, jusqu'au t'ose pas !» Bon bah, vous avez vu, hein, le marché, il a plutôt osé et il a carrément plutôt gagné. Et puis, on peut carrément dire que Bessent s'est carrément fait humilier dans l'histoire. Le 10 ans américain est donc ce matin à 4,97, le 30 ans est à 5,37, c'est du jamais vu depuis 2007. Le pétrole a pris 6% en une seule séance et les deux barils, le WTI et le Brent, sont au-dessus des 100$. Et pendant que tout brûle, le président américain promet 5 000$ à chaque électeur s'il vote pour les républicains au midterms. Et alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous faire un petit calcul assez simple à faire et ensuite vous ne regarderez plus jamais une promesse électorale de la même façon. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le vendredi 11 septembre 2026 et je suis Thomas Veillet. Au programme aujourd'hui, un secrétaire au Trésor qui s'est pris la fessée de sa vie, des taux d'intérêt qui touchent la zone qui fait peur à tout le monde, un chèque de 5 000$ qui sont l'arnaque à 10 km, une BCE qui refait exactement la même erreur qu'en 2011 et Oracle qui publie de très 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 bons chiffres qui sentent quand même un tout petit peu le pâté. Et puis à 14h30 aujourd'hui, c'est CPI pour tout le monde.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Donc mercredi, le Trésor américain a annoncé qu'il va racheter jusqu'à 6 000$ d'obligations à 10 et 20 ans. C'est le triple de sa dernière opération. L'idée est simple, si je rachète des obligations, je fais monter leur prix, donc je fais baisser les taux. Le marché, il a regardé ça. Et il a fait la gueule parce qu'il attendait beaucoup plus. Les taux sont donc montés à la place. Jeudi, l'opération a eu lieu pour de vrai. Et là, c'était carrément un drame en plus puisque Bessent voulait racheter 6 000$ et que finalement, il en a obtenu 5,19. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il n'avait pas le pognon, hein, parce que c'est le Trésor américain. Ils ont une imprimante à pognon. Non, il n'a pas eu ses 6 milliards parce que personne ne voulait lui les vendre au prix où il voulait acheter. D'habitude, pour ce genre d'opération, le Trésor reçoit à peu près 20 milliards d'offres. Cette fois, c'était la moitié. C'est un peu comme si vous arrivez au marché avec votre porte-monnaie plein de billets, vous êtes prêt à tout acheter et que les marchands vous regardent en disant non, merci, pas à ce prix-là, pas assez cher. Et le truc complètement absurde, c'est que les adjudications, elles, se sont super bien passées. Le 10 ans de mercredi a attiré la plus forte demande depuis 2019. Et sur le 30 ans de jeudi, les banques qui ramassent normalement les invendus n'ont dû prendre que 2,2% du papier. C'est un record. Donc on se bat pour acheter de la dette neuve. Et une fois qu'on l'a achetée, on la revend dans la foulée en faisant monter les taux. Et puis alors le soir même, qu'est-ce que fait Scott Bessent? Il va s'expliquer. Et où c'est qu'il va s'expliquer? Eh bien il va s'expliquer chez Steve Bannon. Voilà, rien que ça, juste le choix du podcast, ça vous dit tout de suite la crédibilité du gars en ce moment. Bessent a raconté que le marché obligataire était en très 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 bonne forme, que les inquiétudes sur les taux c'était du pipeau et c'était un tas de bruit, et puis, petite marche arrière, en fait il n'a jamais défié personne, il l'a confirmé. Mardi, il disait « Pariez contre moi, chichecote au spa !» Et puis jeudi soir, il dit qu'il n'a jamais défié personne. En gros, 48 heures, c'est la durée de vie d'une conviction à Washington en 2026. Mais le meilleur arrive, c'est pas fini, parce qu'il fallait quand même bien trouver un coupable dans tout ça. Le responsable de cette méchante hausse des taux. Eh ben le coupable, il est tout trouvé. C'est la faute à l'Iran, c'est tout la faute au Mollah. Bessent a accusé l'Iran d'essayer de créer des problèmes économiques aux États-Unis, je cite, « en utilisant les rendements obligataires ». C'est hallucinant. Donc on a maintenant un ministre des Finances, dans un pays évolué, soi-disant, qui explique à la télé que si les taux montent, c'est pas de la faute au ramassis tocard qui gère le pays, mais c'est toute la faute des mollas. Franchement, à ce niveau-là du gouvernement, fallait franchement oser. Ce matin, le 10 ans américain est donc à 4,97, le 2 ans à 4,58, plus haut depuis 2024, le 30 ans à 5,37, plus haut depuis 2027. On n'arrête pas de vous le répéter. Et puis alors, la trajectoire, c'est ce qui fait le plus peur dans l'histoire. Hein. C'est le 27 février, avant les premières frappes sur l'Iran, le 10 ans était sous les 4%. En 6 mois et demi, on a pris 1%. Et puis alors, vous l'avez entendu et vous le savez, c'est pas qu'un problème américain, puisque le Bund allemand est au plus haut depuis avril 2011, le 10 ans britannique au plus haut depuis 2007, et l'écart entre la France et l'Allemagne, le spread, est à 94 points de base, c'est du jamais vu depuis 2012, depuis la crise de la zone euro. Le monde entier suit dans cette hausse des taux comme un seul homme. Et puis alors, vous vous souvenez ce qu'on répétait il y a encore 48 heures ? Attention, les 5% sur le 10 ans, c'est la zone clé, la zone de danger. C'est le moment où chaque investisseur se pose la question qui tue. Mais pourquoi je prendrais des risques sur des actions survalorisées alors que l'oncle Sam me paye 5% sans risque ? Enfin, sans risque, ça se discute. Mais admettons, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que maintenant, les 5%, bah, c'est maintenant. Alors, est-ce que tout le monde va vendre à partir de cet après-midi dès que le 10 ans va toucher 5%? Non, c'est pas si simple. Bien évidemment que c'est pas si simple. Sinon, ce serait trop facile. Et puis, la bourse, quand c'est trop facile, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a un paquet d'investisseurs qui ne se contentent plus d'un 5% quand ça fait 3 ans qu'ils font des rendements malades grâce à l'intelligence artificielle. 5% pour eux, c'est le rendement d'une matinée. Donc, il faut beaucoup plus. Ça suffit pas pour les faire changer d'avis. Et puis techniquement, après 4 séances de baisse, on teste les supports, on arrive sur la moyenne mobile des 50 jours qui a toujours bien tenu ces derniers temps, donc on attend de voir si ça tient avant de paniquer pour de vrai. Mais les taux, quand même, ont déjà fait des dégâts, sauf qu'on les voit moins. Au deuxième trimestre, les bénéfices des sociétés du S&P 500 ont bondi de 52%. 52%, tout le monde est d'accord, c'est énorme. Et le S&P, il en est où, lui ? Il est à 2,5% de son record. Moi, c'est pas si mal, même si ça fait 4 séances qu'on baisse. Sauf qu'il y a un an, le marché payait 23 fois les bénéfices. Aujourd'hui, il ne paye plus que 19,5 fois. En gros, les profits sont en train d'exploser et les taux se chargent de manger la différence en silence. Parce que si le marché continuait à payer les mêmes multiples que l'an dernier, le S&P serait pas à 7600 points, il serait à 9000. Donc en gros, on peut dire qu'il y a 1400 points de hausse qui ont été bouffés par les taux ces derniers mois. Et les signes sont déjà là. Hein. Les hedge funds ont réduit leur exposition aux actions au plus bas de l'année. Le VIX, l'indice de la peur, est à son plus haut depuis le début d'août. Il commence à se réveiller. Personne ne panique, mais enfin, pour l'instant, on commence tous à regarder où sont les sorties de secours. Et on regarde si les hôtesses de l'air sont en train de paniquer ou si elles continuent à servir du champagne. Hier, on a eu le PPI, les prix à la production. Et sur le papier, c'était conforme à ce qu'on attendait. Plus 0,4% sur le mois, plus 5,4% sur une année, et le core CPI est à plus 0,2%. C'était même un poil mieux que prévu si on se base seulement sur ce chiffre. Sauf qu'il faut quand même regarder là où ça monte. Et là où ça monte, ça commence à faire peur. Le diesel, en un mois, a pris 24,1%. Et le diesel, c'est pas un chiffre sur un tableau. Le diesel, c'est le camion qui vous livre les œufs et votre bacon. C'est le tracteur qui cultive vos céréales. Ça finit presque directement dans le prix du supermarché. C'est juste une question de patience. Et puis alors, il y a une petite ligne dans ce rapport que j'adore, donc je la place quand même ici, c'est que les frais de gestion de portefeuille ont pris 18,8% sur une année aux États-Unis. La seule chose qui monte presque aussi vite que le diesel aux States, c'est ce que le banquier vous facture pour gérer le bull market de l'intelligence artificielle. Résultat de tout ça, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed mercredi prochain est passée de 61% à 73% en une seule journée. Et aujourd'hui, à 14h30, il y a le CPI. On attend 3,4% sur une année, 2,4% pour le corps. Mais attention au piège, c'est un chiffre du mois d'août, un mois où le baril se promenait autour des 90 dollars, même un peu en dessous. Même un bon chiffre, ce sera une bonne nouvelle mais qui est sacrément périmée. Je serais même pas étonné qu'on nous sorte un chiffre sous les attentes, histoire de rendre la mariée un peu plus belle juste avant de demander au consommateur, celui qui est en train de se faire tondre, d'aller voter. Républicain si possible, bien sûr. Et puis, il y a le pétrole. Parce que ça faisait quand même un bon moment qu'on n'en parlait plus de celui-là. Le WTI a rejoint le Brent au-dessus des 100 dollars. Pas plus tard qu'hier, on est à plus 6% pour les deux en une seule séance. Plus haute clôture depuis le 19 mai. Et puis, sur le mois de septembre seulement, on est à plus 18% sur les deux barils. Ce matin, le Brent est à 107,88 et le WTI à 102,61. Et alors cette fois, ce qui a mis le feu aux poudres ou le feu au baril, c'est même plus le détroit d'Hormuz. On s'en occupe plus, on s'en fout, parce qu'apparemment, il paraît qu'il est ouvert. Non, c'est l'autre porte qui commence à faire bobo. Les Houthis ont pris le contrôle du port de Mocha au Yémen et ils se rapprochent dangereusement du détroit de Bab el-Mandeb. Alors, Bab el-Mandeb, c'est quoi ? Ben, vous le savez peut-être, c'est exactement la sortie de secours que l'Arabie Saoudite utilisait pour contourner le détroit d'Hormuz. Donc on avait une porte fermée et quelqu'un qui était en train de fermer la partie de secours. Et ça, ça commence à stresser un peu tout le monde sur le baril. Résultat, la production saoudienne, elle tombe à son plus bas depuis 1990. En 1990, je savais même pas ce que c'était le S&P 500. Et Trump, pendant ce temps-là, il promet que la guerre se terminera immédiatement après les élections. Évidemment. Et que le prix de l'essence baissera immédiatement après les élections aussi. Mais d'abord, il faut voter républicain. Sauf que ses propres conseillers, il paraît selon le Wall Street Journal, Vance et Rubio en tête, lui ont expliqué en privé que ça pourrait durer quand même jusqu'en 2029, que la guerre pourrait durer jusqu'en 2029. Donc le patron annonce la fin de la guerre dans 8 semaines et ses adjoints lui disent plutôt 2 ans et demi quand même. Donc soit on vit avec, soit il faudra faire la guerre au sol pour aller déloger les gardiens de la Révolution. Sauf que des cercueils américains qui rentrent à la maison juste avant une votation, c'est pas super tendance. Et c'est pas très bon en marketing. Donc la paix, c'est pas pour demain, et c'est pas impossible que ça empire avant d'aller mieux. Et puis alors maintenant, le calcul que je vous ai promis au début de cette vidéo, aux États-Unis, le diesel est à 5,98$ le gallon. Un record absolu, l'essence est 34% plus chère qu'il y a un an, et on attend de voir le diesel au-dessus des 6$ dans les jours qui viennent. Au total, les Américains dépensent chaque jour 700 millions de dollars de plus en carburant qu'il y a une année en arrière. Chaque jour, 700 millions de dollars de plus sur une année, ça fait 255 milliards. Et si on divise par le nombre d'adultes américains, ça fait à peu près 950 dollars par personne et par année. 950 dollars qui partent directement dans le réservoir. Alors maintenant, retenez bien ce chiffre, 950 dollars. On va y revenir dans quelques instants. Mais alors, rassurez-vous, parce que l'autre cinglé a une solution pour régler ce problème. Mercredi soir, à Dallas, devant une salle, on va pas dire comble, mais remplie de sièges vides que tout le monde voyait, sauf lui, Trump a sorti son grand numéro. Si les républicains gardent la Chambre et le Sénat en novembre, chaque adulte américain touchera 5 000 $ cash. Ça s'appelle, je cite, le dividende Trump. Avec une condition, on ne veut pas que vous alliez dépenser cet argent au Canada. Le Canada avec qui les États-Unis sont en guerre commerciale depuis mardi, bien sûr. C'est toujours bon d'enfoncer le clou et faire un petit coup de marketing sur la thématique. Le coût de cette escroquerie de génie, c'est 1200 milliards de dollars, plus que le budget annuel de la défense américaine. Plus ou moins 3 fois le déficit américain. Alors, la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qui va payer et comment est-ce qu'on va payer pour ces 1200 milliards de cadeaux si les républicains gagnent ? Bah les droits de douane, évidemment, selon J.D. Vance. Sauf que la Cour suprême a invalidé la plus grande partie de ces droits de douane et que l'an prochain, il devrait rapporter maximum 125 milliards, soit à peu près 10% du chèque promis par Donald Trump. Donc le reste, les 90% qu'il faut payer, comment on va faire ? Bah c'est pas grave, on va emprunter sur le marché obligataire, ce même marché obligataire qui vient de faire comprendre à Trump et ses amis qu'ils étaient beaucoup moins chauds pour lui prêter du pognon. Et puis alors là, une des plus belles histoires du moment, c'est la Maison Blanche qui a osé se comparer à, je cite, « une entreprise prospère qui reverse du cash à ses actionnaires ». Une entreprise avec plus de 40 000 milliards de dettes qui emprunte pour payer son dividende. Même Madoff, il n'aurait pas osé. Hein. Même mort, il n'aurait pas osé. Ce gouvernement est tout simplement une pyramide de Ponzi. Et alors maintenant, le fameux calcul. 5 000 $ cash en une fois promis après novembre, en cas de victoire. Contre 950 $ par an que la pompe vous prend déjà maintenant pour une guerre qui pourrait durer jusqu'en 2029. En gros, on vous rembourse 5 ans d'essence avec votre propre carte de crédit. Oui, parce qu'à la fin, qui va se prendre la dette dans les dents ? En tout cas, pas Trump, ça c'est sûr. Plutôt vous. Et le plus beau, le lendemain, Trump explique à la télé que si les démocrates gagnent, il les bloquera et qu'il pourra sûrement faire des deals avec eux. Oui, parce que c'est lui l'empereur du deal. En gros, même lui, il croit pas à son chèque de 5 000 $. Et pendant ce temps-là, à Berlin, la BCE a monté ses taux d'un quart de point à 2,5% à l'unanimité. Christine Lagarde a parlé d'une décision évidente, tout le monde le savait, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et des sources expliquaient déjà, dans l'après-midi d'hier, qu'une nouvelle hausse pourrait tomber dès le 29 octobre, et le marché y croit déjà à 70%. Sauf qu'il y a un problème. Monter les taux pour lutter contre un baril à 108 $, c'est comme augmenter le prix du parking pour faire baisser l'essence. Ça ne change absolument rien à la pompe, mais les gens finissent par rester chez eux. Et quand les gens restent chez eux, en économie, ça porte un nom. Ça s'appelle une récession. Et c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, que la BCE nous fait le coup. Juillet 2008, la BCE monte ses taux parce que le pétrole est à 145 $. 2 mois plus tard, Lehman Brothers saute. En octobre, elle baisse les taux en catastrophe. Avril 2011, rebelote, Trichet monte les taux à cause du baril. Il remet ça en juillet et en novembre, Draghi arrive et démonte toute la structure. Et puis alors maintenant, le petit détail qui tue, le Bund allemand est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis, roulement de tambour, avril 2011. Nous sommes donc très précisément revenus au niveau de la dernière connerie de la BCE. Et la semaine prochaine, c'est au tour de Kevin Warsh de passer à la moulinette. Le type qui a été nommé par Trump avec une mission à peine voilée, celle de garder les taux bas et de les ramener encore plus bas. Trump lui a même demandé publiquement d'être enfin patriote. Et en face, le marché lui donne 73% de chances de monter les taux. Donc à l'opposé de ce que demande Donald Trump. De l'autre côté, Bessent jure qu'un duel Bessent contre Warsh, c'est que des foutaises, c'est n'importe quoi. Moi, je veux bien le croire, mais quand deux types répètent qu'il n'y a aucun problème entre eux en boucle à la télé, c'est en général qu'ils ont déjà chacun pris un avocat. Et pourquoi pas un duel Trump-Warsh ? Allons, ça c'est pour la semaine prochaine. Un des points les plus importants de cette semaine, c'était les résultats d'Oracle, et Oracle a publié. Et il faut reconnaître que les chiffres sont bons. Les ventes sont à plus 30% à 19,3 milliards, bénéfice par action à 1,92 contre 1,74 attendu, un carnet de commandes à 664 milliards alors qu'on attendait 618, et des prévisions qui sont révisées à la hausse. Le titre s'est fait défoncer pendant la séance, et il rebondissait de 4,5% après la clôture. Bon, c'est super. Maintenant, on va regarder la colonne dépenses, parce que là, on a regardé ce qui est rentré, maintenant, regardons ce qui sort. Sur un trimestre, Oracle a dépensé 28,5 milliards en investissement. Il y a deux ans, sur une année entière, la société en dépensait 6,9 sur une année. Donc Oracle dépense aujourd'hui, en 3 mois, 4 fois ce qu'elle dépensait en 12, il y a 24 mois. Le cash flow est négatif pour le sixième trimestre d'affilée. Les analystes ne le voyaient pas redevenir positif avant 2030, et ils ont vendu 20 milliards d'actions nouvelles sur le trimestre, et la moitié du carnet de commandes repose sur un seul client qui s'appelle OpenAI. Alors là, je vais vous dire, il y a un truc qui me chiffonne. Toute la presse est d'accord ce matin, ce sont de très très bons chiffres. Génial, Oracle a renversé la vapeur, youpi. Mais une boîte qui est dans l'IA jusqu'au cou, qui sort de très très bons chiffres et qui ne rebondit que de 4,5% après s'être fait défoncer la veille, sérieusement ? Moi je sais pas, il y a un truc qui cloche, on essaie de rendre la mariée plus belle, mais personne n'arrive vraiment à y croire, parce qu'un rebond de 4,5% dans ce genre de conditions, c'est anémique. Et puis alors vite fait, Apple, le premier iPhone pliable est sorti, 1999$, les experts attendaient 2099$, donc techniquement c'est une affaire. Les analystes doutent, mais le titre prend quand même 3,6% dans le doute justement. Et connaissant la relation amoureuse des gens avec leur smartphone, 2000 balles c'est cher, mais pour un smartphone c'est pas un problème, on laissera la voiture au garage pendant 2 semaines et on prendra le bus. Alors qu'est-ce qu'on retient de ce vendredi 11 septembre ? Tout d'abord, on retient qu'un ministre a défié le marché mardi dernier et que jeudi, le marché lui a refusé la moitié de ses rachats et qu'il s'est pris un gigantesque coup de boule. On retient que les 5% sur le 10 ans, c'est maintenant, et que les taux ont déjà mangé 1400 points du S&P sans que personne ne s'en rende compte. On retient aussi que la BCE refait 2011 et qu'on vous promet 5000$ financés avec votre propre carte de crédit aux États-Unis. Aujourd'hui, PIB britannique à 8h, CPI américain à 14h30, le rendez-vous de la journée, et le moral des consommateurs américains à 16h. Et lundi, Bessent a promis de sanctionner une grande banque liée à l'Iran, sans dire laquelle. Il y a des directeurs compliance qui vont passer le week-end à vérifier que personne n'a ouvert un compte pour un ayatollah. Et puis alors, le joke de la journée, Monsieur Edouard Philippe, qu'on appelle aussi Fantomas, qui se voit déjà à l'Elysée en 2027, propose qu'un président élu en mai ne prenne ses fonctions qu'en septembre pour avoir le temps de se reposer un peu après la campagne. Le même qui explique aux Français qu'il va falloir bosser jusqu'à 67 ans au minimum veut commencer son propre mandat par 3 mois de vacances. Entre Attal et sa tournée des bistrots et Mélenchon qui veut effacer la dette, je pense que Cyril Hanouna devient une option sérieuse pour la présidence, sauf si la vache Milka est dispo, ou alors le bonhomme Michelin. Et pendant que ces gens-là planifient leur sieste, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est au plus haut depuis 2012. Dernière petite chose sous forme d'annonce, mardi prochain, le 15 septembre à 18h, il y aura un webinaire online, bien sûr, chez Swissquote. Un webinaire avec mon associé chez investir.ch, Marco Rassaldi, et moi-même. On parlera pharma, ça tombe bien, c'est la mode, surtout chez Novartis. Et puis, il y aura plein de temps pour répondre à vos questions. Mais pour ça, il faut s'inscrire et le lien est sous la vidéo. Alors, venez mardi, inscrivez-vous. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Et puis, on pourra se causer, par chat en tout cas. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le rituel. On like, on commente, on partage et on s'abonne en activant la cloche pour ne pas rater le Swiss Bliss de demain matin. D'ici là, la prochaine fois qu'un politicien vous promet un chèque, posez-vous une seule question. Qui va payer le chèque à la fin ? Il y a bien des chances que ce soit vous. Bonne journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.